Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Julien Michel et Tiffany Battistel. Porter son regard cette semaine sur le fétichisme esthétique de Dario Argento dans le film d'épouvante onirique sorti en 1980 sous le titre Inferno, et en particulier sur le plan sublime qui suit la scène suivante. L'énième future victime d'une créature diabolique regarde avec terreur la porte fermée à clé qui la sépare du monstre. Des cliquetis résonnent, la poignée bouge, composition banale de film d'horreur, jusqu'à ce que la caméra plonge dans le mécanisme de la serrure et nous montre son inévitable ouverture de l'intérieur. C'est beau et surprenant, une volupté métallique inattendue. Véritable caméléon sur scène et sur les écrans, notre invité intègre la Comédie Française en 2012 comme pensionnaire et devient en 2019 son 534e sociétaire. Remarquable par l'étendue de ses interprétations, celui qui adore brouiller les pistes semble aussi à l'aise en professeur norvégien sentimental qu'en drôlatique Marie-Tête à claque ou en pleutre et inquiétant jeune carriériste politique. Il peut tout incarner, les gentils, les méchants ou les pittoresques, comme chez Wes Anderson. Jusqu'au 12 mars, au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, il joue avec la troupe de la Comédie Française dans La Dame de la Mer d'Ibsen, mise en scène par Géraldine Martineau, le 22 mars au cinéma dans De Grandes Espérances de Sylvain Desclous et plus tard dans Jeanne du Barry de Mai Wen et dans L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier dans le rôle-titre.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Benjamin Laverne.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Alors on attaque fort.
Bah oui.
J'ai pas eu le choix.
Oui, ça.
J'ai pas eu le choix. Après, j'ai tout intérêt à être content. Donc, je fais tout pour l'être et ça se passe plutôt bien.
Vous y arrivez ?
Ouais, je crois que j'y arrive.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Parfois, ça, c'est un peu sport. Parfois, c'est un peu fatigant. Je dirais que voilà, j'ai tendance à. Parfois, ma sensibilité me joue des tours. Mais j'ai la chance d'avoir quand même un caractère optimiste, plutôt joyeux. Et je peux dire que j'aime la vie. On peut le dire. Donc je m'en sors, mais je pense que beaucoup de gens doivent dealer avec eux-mêmes. C'est souvent même l'interlocuteur le plus complexe, peut-être.
Quand vous dites fatigant et vous parlez de votre sensibilité, c'est parce que vous avez une sensibilité très forte ?
Je la découvre d'année en année et j'apprends à me connaître tous les jours, mais je pense que quand on est artiste, on a une porosité peut-être au monde un peu plus particulière. Alors on parle d'hypersensibilité parfois, moi je sais pas du tout de quel spectre je fais partie, mais je pense que je peux être assez anxieux en effet, et que je suis assez cérébral. J'essaye de m'auto-analyser parce que je m'attendais pas à toutes ces questions.
Ah bon ?
En tout cas, ouais, je me découvre chaque jour et je pense que je suis particulièrement sensible à certaines choses, moins à d'autres.
L'anxiété, ça décroît avec le temps ou ça reste stable ?
Oui, on apprend exactement à la connaître, à l'identifier, à savoir quand est-ce qu'elle arrive, pourquoi, et à l'apprivoiser.
Comment est-ce qu'on l'apprivoise ?
Bah, en repérant, en connaissant, on dit « Ah d'accord, donc là c'est ça, ok, je connais par cœur, c'est pas grave, ce genre de choses. » En identifiant, en repérant, en ayant de la tendresse pour soi aussi, évidemment, en ayant de la douceur et essayer de pas s'auto-flageller. C'est pas comme un sport, mais c'est une pratique, quoi. C'est une pratique où on apprend à pas dévier ou à les pièges. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que votre cerveau peut vous tendre des pièges ou votre sensibilité, qui est souvent également un atout, très souvent, c'est souvent l'atout et qui peut être aussi une fragilité, mais. Après, il y a plein de moyens. On peut faire un travail sur soi.
Ouais, non, mais les moyens m'intéressent. J'ai une question après pour la suite, mais les moyens m'intéressent.
C'est vrai.
Oui, à titre personnel, et puis je suis sûre que parmi les auditeurs, il y a à peu près, je dirais, 90% qui seraient très intéressés d'avoir des astuces pour l'anxiété.
Oui, des astuces sont très classiques. D'avoir un interlocuteur pour parler, c'est souvent très intéressant. C'est souvent très fertile et ça peut faire beaucoup de bien, mais. D'extérioriser ses émotions aussi, de pas trop garder pour soi, parce que ça finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, de choisir les bons interlocuteurs, donc, que ce soit dans la famille ou les amis. Les très 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 bons amis sont souvent, je pense, les meilleurs. On en a deux, trois dans la vie. Enfin, par moment, hein. Moi, j'aime bien partager avec mes très bons amis, très proches, ou avec mon amoureuse, ou avec un professionnel. En fait, tout l'équilibre à trouver, c'est de, je pense, dans ce monde qui est un peu agressif, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est d'arriver à se protéger sans se blinder, quoi. C'est difficile de s'habituer à ce qui nous agresse, et en même temps, on est obligé de s'y habituer et de se faire le cuir, en fait. Sinon, on devient fou, quoi. Donc, même quand on se balade dans la rue à Paris, il y a mille raisons d'être angoissé. Et donc, souvent, on se renferme, que ce soit dans son téléphone ou dans son casque, ou dans... et on a toutes ces petites agressions qui vous arrivent. Et donc, je pense que ceux qui arrivent à traverser la vie, c'est aussi ceux qui arrivent à dealer avec, mais sans jamais trop s'y habituer. C'est cet équilibre, il est hyper difficile à trouver, je trouve. Je pense à ça parce que je pense justement à l'immédiateté de la vie. Moi, j'habite à Paris et de la violence des rues, du métro, des informations. C'est un peu dépensif, hein, ce que je dis, mais c'est de. Moi, j'écoute énormément la radio, France Inter, France Info.
Bravo.
Et voilà, je suis hyper corporate. Et donc, je me pose cette question souvent. Je me dis, mais comment j'arrive à garder le sourire tous les jours, à me dire bah ouais, c'est comme ça. Une espèce d'acceptation de la fatalité de la violence du monde. Donc ça, en fait, c'est... Je pense qu'on est obligé, malheureusement, mais tout en restant quand même disponible à pas à se dire, de toute façon, la vie est affreuse, il y a une injustice, il n'y a pas de justice divine, il y a les choses... On peut mourir à 5 ans d'un cancer, on peut être agressé alors qu'on sort, je sais pas, d'une très belle soirée et que tout va bien. Enfin, il y a tellement de pas de sens. De trouver du sens aux choses, c'est ce qui est le plus difficile. Et donc, je dirais que on est obligé, voilà, de s'habituer un peu et de composer. Mais il faut pas que ça enferme. Il faut pas que ça anesthésie. Mmh. Voilà.
Ouais, le mot est juste.
Je suis un peu dans ces questionnements parfois.
Benjamin Laverne, vous dites avoir la chance de vous lever pour faire votre passion. Je sais qu'au français, le rythme peut être difficile à tenir. Quel est-il et n'avez-vous jamais frôlé l'épuisement? Parce que vous pouvez jouer plusieurs pièces plusieurs fois dans le week-end, par exemple.
Non, j'ai souvent frôlé l'épuisement. Mmh. Je suis pas loin, là.
Ah.
j'ai l'immense chance donc, de faire du théâtre à la Comédie Française et de tourner au cinéma. Souvent, on dit, mais tu préfères le théâtre ou le cinéma? Et en fait, moi, j'ai cette chance de ne pas avoir à choisir et de ne pas avoir envie du tout de choisir. Parce que je sais à quel point les deux me rendent heureux et à quel point le naturalisme, la finesse du cinéma me nourrissent dans mon jeu au théâtre et inversement la technique, l'ampleur, la connaissance de son outil, de la pointe des cheveux jusqu'à l'orteil du pied, sa conscience dans l'espace et le travail sur la voix m'aident techniquement au cinéma beaucoup. Et en effet, c'est un luxe. Alors je touche du bois, je n'ai pas à choisir, j'arrive à jongler, mais La contrepartie, c'est que c'est épuisant parce que c'est un métier où on se donne corps et âme quand on le fait, en tout cas avec passion et qu'on ne s'économise pas, qu'on n'est pas un acteur dit technique, ce que j'espère ne jamais être. Et donc, il y a des rôles en plus très très éprouvants, comme les fourberies de Scapin. Et donc, quand je décide de faire le film de Laurent Tirard, Le Discours, en journée et de jouer Scapin le soir, forcément, je le paye. Ça me rend très heureux, mais ça vide, quoi. J'ai dû perdre 7-8 kilos. On a un peu des cernes et les gens commencent à s'inquiéter. C'est souvent dans le regard des autres qu'ils me disent « Mais ça va ?» Tu fais « Ouais, ça va super. » Mais t'as l'air un peu fantomatique. Parce qu'on y laisse un peu des plumes, quand même. Je crois que c'est vraiment un métier, quand on le fait à fond, comme beaucoup de métiers, comme des sportifs de haut niveau, comme des artistes dans leur métier, que ce soit un chirurgien. Je parle vraiment pour toutes les professions, mais en tout cas, pour ce qui est du métier d'acteur, c'est dur de ne pas être éprouvé, de ne pas être épuisé quand on fait beaucoup ce métier. Et moi, je le fais beaucoup et c'est génial. Souvent, on a la honte de s'en plaindre. On se dit, là, faut surtout pas que je m'en plaigne.
Non, mais
parce
là,
que c'est une
va,
chance inouïe.
Oui, c'est bon, on entend plutôt ça dans votre discours.
Ah ouais, non, mais ça me rend terriblement heureux, mais je vois aussi ce que ça peut me coûter, quoi, un peu en énergie. Et puis aussi, il faut vivre. Souvent, on dit, voilà, quand même qu'il faut aussi se nourrir. Un acteur, elle a besoin de se nourrir, de voir le monde, d'être amoureux, de se nourrir, enfin d'accumuler de l'expérience pour pouvoir après cette émotion la mettre au service du rôle. Voilà.
J'annonce le sommaire des réjouissances alors, à venir, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Dans un instant, On va parler avec vous, Benjamin Laverne, entre autres de Dostoïevski, de Jim Carrey, de Charlie Chaplin, de Roberto Benigni, des frères Farelli, de Sentiments d'inéluctable, du goût des autres, de François de Brouwer et d'un mouvement d'aide intermittent. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Vous avez le temps ?
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien les 100 prochaines années. Et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains, roulement à billes. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais?
Les 100 prochaines années d'Albin de la Simone dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Benjamin Laverne qui aimerait changer le sentiment de fatalité propre à l'époque, le fait que la fin du monde semble inéluctable. Mais c'est vrai qu'en statistique, il y a de grandes chances pour que tous les gens vivant aujourd'hui ne la vivent pas. Et pourtant, nous progressons dans un climat qui la rappelle sans cesse. Quel est votre rapport à la fatalité, au pouvoir sur les choses? Vous pensez qu'on a beaucoup de pouvoir sur les choses?
Oui, parce que si on arrête d'y croire, ça, c'est fini. C'est là que ça s'arrête. Ce qui est fabuleux, c'est de voir à quel point c'est un combat permanent, un combat contre justement la fatalité de la guerre, de la pauvreté, des injustices, de cette planète qu'on tue. Et en même temps, ce qui est sublime et magnifique, qu'on continue à faire des enfants. c'est hallucinant de se dire que les gens mettent au monde encore beaucoup en permanence.
Et
c'est génial,
baisse.
Mais c'est un souffle de vie qui est propre à l'homme et qui perdure et qui, heureusement, ça crée une révolte. Et en effet, j'ai joué l'abbé Pierre et ça, c'est de ne pas s'habituer à l'insupportable. C'est de pas dire c'est comme ça, la vie c'est comme ça, on peut rien y faire.
On peut faire à petite échelle.
Et je trouve ça fabuleux d'être à ce point-là, dans cette sensation de fin du monde, parce que ça c'est inédit. Moi, du haut de mes 38 ans, j'ai jamais vécu ça. Peut-être quand on était ceux qui ont connu les guerres mondiales se devaient se dire ça y est, c'est la fin du monde. Mais là, il y a quand même ce sentiment-là qui parfois prête à sourire, parfois de se dire mais c'est quand même on atteint des niveaux de merde. J'ai pas d'autres mots, en fait. J'ai pas d'autres mots qui viennent.
Oui.
Et on y croit, et les gens sortent dans la rue comme jamais pour cette réforme, ou pour d'autres choses, ou pour le climat, et les enfants prennent le relais les nouvelles générations, et voilà. Il y a jamais eu autant de désespoir, mais aussi autant de combat, et de foi. Alors on questionne beaucoup quand même, la question de la foi et de qu'est-ce qu'on va devenir. Je pense que c'est très dur pour, en effet, la jeune génération, les ados, quoi, qui ont 15, 20 ans et qui sont plus près de ça. Nous, on a le cuir un peu plus fait. C'est comme si on était un peu plus habitués. Mmh. En effet, il faut s'en méfier de cette habitude. Voilà. Mais le rapport à la fatalité, je le questionne tous les jours. Tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, justement, pour ne pas se dire, c'est comme ça. La vie est affreuse. De chercher de la beauté partout. D'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller voir de la danse, de la peinture, d'essayer de, la flamme, quoi, la lumière.
Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin ?
Une randonnée nocturne.
Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Te rends compte du risque que t'as pris, David ?
Un homme était en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici ? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim ?
Tu crois qu'il a quel âge ?
Il m'a dit 15 ans.
Il a traversé plein de pays, hein ?
Il l'a amené ce matin dans une association.
Je suis sûr que ça va aller.
Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un palace ici, regarde.
Je veux surtout pas que tu perdes espoir, d'accord ? Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Dans cette émission, je demande aux invités s'ils sont engagés, pas forcément de façon militante, mais engagés dans leur habitat du monde, dans leur habitation du monde. Vous, Benjamin Laverne, vous avez joué dans un film qui s'appelle « Les Engagés » d'Émilie Frèche, sorti en novembre 2022 et inspiré de l'histoire des sept de Briançon. Vous jouez le rôle de David, un homme ordinaire qui devient hors-la-loi parce qu'il a aidé des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vision du monde de participer à ce film ? Et est-ce que vous pouvez expliquer brièvement aux auditeurs l'histoire des sept de Briançon ?
Bien sûr. Chaque film vous change, vous déplace, vous font réfléchir. Celui-là encore plus. Parce qu'il s'agit de David qui est justement kiné, lui, à Briançon. Il est pas militant, il est pas anard, il est pas spécialement politisé. En tout cas, on sait pas et on cherche pas à le savoir. Simplement, c'est un citoyen. Il habite là. Et il découvre la situation de sa ville. En tout cas, il la connaît quand on commence le film. Sauf que elle va le heurter en pleine figure et briser sa bulle de protection que peut être parfois le foyer, une maison bien au chaud avec sa famille et on regarde et les bruits du monde frappent à votre porte et puis il y a quelqu'un qui rentre chez vous et là sa vie bascule parce qu'il a un être humain qui est un jeune qui vient du Mali et qui frappe à sa porte et qui et donc là il ne peut plus ne pas le voir et il s'occupe de lui. Et c'est ça qui m'a terriblement touché, c'est « et si ça vous arrivait à vous, en fait ?» Parce que, voilà, ça arrive toujours aux autres, et quand quelqu'un frappe à votre porte, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous lui dites, est-ce que vous fermez votre porte ou est-ce que simplement vous l'ouvrez ? Et quels que soient d'ailleurs vos avis politiques, vos avis sur l'immigration, quand ça vous arrive, et ça arrive à Briançon, ou dans des villes frontalières, comme même à Saint-Jean-de-Luz, ville proche de l'Espagne, et qu'il y a des accidents terribles, des morts, des gens qui se noient dans des cours d'eau, qui sont heurtés par des trains, bah, qu'est-ce que vous faites ? À quel endroit ça vous secoue, ça vous réveille ? Et voilà, donc je me suis évidemment identifié à ce personnage. Les sept de Briançon, ce sont justement des habitants de Briançon qui ont été inquiétés parce qu'ils ont été sauvés des gens en montagne, qui étaient en train en hypothermie et qui ne sont pas du tout équipés et qui sont des gens qui traversent au péril de leur vie la haute montagne à des températures polaires. Et alors, en l'occurrence, je ne suis pas leur avocat, mais ils ont fait une manifestation et donc ils ont traversé la frontière avec des sans-papiers en situation irrégulière et qui était annoncée cette manifestation pour protester contre cette course, ce jeu de ping-pong avec la police italienne, la police française. Et ils ont été mis en détention provisoire. Et cette violence envers eux, évidemment, vous révolte et pose vraiment des questions de bon sens et d'humanité, voilà, d'humanité dans ce qu'elle a de plus simple et de plus au premier degré. Quand il y a des gens dont la vie est en péril, quel sens ont les frontières ?
Benjamin Laverne, vous avez aussi joué hors comédie française au théâtre Cellule 107 de Robert Badinter. Est-ce que vous choisissez les projets avec une certaine éthique ou est-ce que l'art passe avant tout ?
C'est lié à un sujet, c'est souvent l'art, c'est un regard sur un sujet, en l'occurrence au théâtre, sur comment on aborde ce sujet, sous quel angle, qu'est-ce qu'on veut raconter, et c'est une manière d'exprimer une sensibilité. Donc là, en l'occurrence, c'était les compagnons, enfin ceux qui vous accompagnent, les collaborations comptent beaucoup aussi. Il y a un texte, il y a un regard sur ce texte. Là, il y avait Robert Badinter, Denis Podalydès, que j'aime profondément et qui m'a mis en scène dans Les Fourberies de Scapin et qui est vraiment un ami. Et donc là, on dit oui très vite parce que c'est des rencontres extraordinaires de rencontrer Badinter autour d'une de ses pièces inédites. Ça, c'est les chances de la vie. Et je me dis pas, alors est-ce que j'ai fait trop de drame ou est-ce que ce serait bien que je fasse un peu de comédie ? Non, non. Là, il n'y a pas du tout de plan de carrière. Il y a juste un appel, un élan et une envie de rencontrer ces gens. Évidemment, et c'est des chances, c'est magique. Mais moi, je vais vers les projets qui me touchent, et il n'y a pas de logique. Là, j'ai fait 4 drames de suite. C'est vraiment le hasard. Après, c'est intéressant de tisser et de voir quels sont les liens entre les projets pour voir, en effet, s'il y a des thématiques qui me plaisent plus que d'autres. Je n'ai pas encore fait cette analyse.
Ça viendra. Dans les choses qui vous touchent, Benjamin Laverne, il y a cette association qui s'appelle Coucou Nous Voilou.
Oui, tout à fait.
Qui aide l'accueil des enfants hospitalisés. Vous avez soutenu cette association fondée en 2015 par Marc Salem. Je vous laisse nous en dire un petit mot.
Bah, Coucou Nous Voilou, c'est une association assez extraordinaire qui s'occupe de l'accueil et de la vie des enfants dans les hôpitaux. C'est peut-être pas la seule, en tout cas c'est celle que je connais le mieux. Et elle a 2 activités, elle fonctionne par des dons évidemment, et elle fabrique notamment l'Abracadabox, qui est un boîtier à l'effigie des personnages préférés de dessins animés ou de BD des enfants, et qui cache les poches de perfusion ou de chimiothérapie. Et donc je trouve que ce projet est génial, d'avoir l'impression qu'en fait, ces poches-là qui ont quelque chose de morbide puissent avoir des super pouvoirs et redonner le sourire aux enfants. Et on sait à quel point le moral est important dans la guérison. Et d'améliorer par la décoration, par des lectures, par tout ce qui entoure ces enfants dans ces lieux très glauques, tout ce qui peut leur redonner le sourire et la joie de vivre et la foi et l'envie de se battre. Et donc oui, bien sûr, j'ai rencontré Marc Salem qui m'a vraiment sensibilisé à son projet. Et puis le Covid a fait que les dons ont été diminués de 80%. Donc c'était, encore une fois, c'est une rencontre, c'est la vie qui vous met ces rencontres devant vous.
Pour en savoir plus, il y a une vidéo de vous sur YouTube à trouver en tapant « Le comédien Benjamin Laverne a un important message pour vous ».
Il était environ 9h du matin. C'était à la fin de novembre, par un temps de dégel. Le train de Varsovie filait à toute vapeur vers Pétersbourg. L'humidité et la brume étaient telles que le jour avait peine à percer. À 10 pas à droite et à gauche de la voie, on distinguait malaisément quoi que ce fût par les fenêtres du wagon. Dans un des wagons de 3e classe, 2 voyageurs se faisaient vis-à-vis depuis l'aurore contre une fenêtre. C'étaient des jeunes gens vêtus légèrement et sans recherche. Leurs traits étaient assez remarquables. Et leur désir d'engager la conversation était manifeste. Si chacun d'eux avait pu se douter de ce que son vis-à-vis offrait de singulier, il se serait certainement étonné du hasard qui les avait placés l'un en face de l'autre dans une voiture de 3e classe du train de Varsovie.
Michel Bouquet lit la première page de L'Idiot de Dostoïevski en 1956 dans Heure de culture française sur la RTF. Benjamin Laverne, vous avez choisi ce chef-d'œuvre mettant en scène le prince Mishkin et son cœur pur, rendu « idiot » entre guillemets par ses crises d'épilepsie, mais faisant montre d'une lucidité remarquable concernant l'âme humaine. Idiot, pas vraiment, mais vrai candide. Moi, je peux pas m'empêcher de penser pendant tout le roman à ce mot arabe « Mishkin » quand on parle de quelqu'un qui veut dire le pauvre, le malheureux. C'est pas le prince Mishkin, c'est le prince Mishkin. C'est épouvantable tout ce qui lui arrive.
Oui, eh ben, moi, ça a été un choc dans ma vie, ça. Ils sont rares. J'ai découvert cette œuvre par la vision de Vincent Macken, qui l'a montée en 2012. Il l'a lu, je crois, une dizaine de fois le roman, et il a tout réécrit avec sa rage, son le filtre de sa sensibilité. Et puis cet acteur, pareil, qui a changé un peu ma vie, parce que je me suis retrouvé à le voir 2 fois. J'étais debout à la fin, et je pleurais, et je le regardais, et je me disais, j'avais envie que ça soit... mon partenaire de jeu, mon ami, enfin, c'était un peu le Christ, parce que c'est ça aussi, le Mishkin, c'est quelqu'un qui prend la parole, et puis sa pureté, sa naïveté, son cœur, on le prend pour un idiot, alors que c'est la raison, et c'est la lumière, et je l'ai, en fait, c'est ça qui a opéré sur moi, quoi. Je l'écoutais.
La bonté.
Ah mais la bonté, mais j'ai rarement pleuré au théâtre, mais là, ça coulait, je passais les rencontres, hein, ça résonnait en moi. Et ça m'a totalement bouleversé. Je suis retourné voir le spectacle à Orléans. J'ai lu le roman dans la foulée. Il s'est un petit peu un peu disparu de ma mémoire, mais c'est par bribes que ça reste, notamment ce monologue de fin où il y a ce vase qui se brise. Et je sais pas, il prend la parole et la nécessité, sa rage, par l'interprétation aussi de Pascal, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le prince Mishkin. Ses grands yeux bleus et cette espèce de rage, cette nécessité de parler, me parle terriblement aussi du métier de comédien. Pour moi, c'est l'incarnation de l'acteur aussi, de quelque chose qui dépasse la vie et d'une d'un questionnement du réel sur scène qui fait qu'il n'y a pas de quatrième mur, que tout est brisé et que vous pleurez, quoi. C'est dans les tripes, en fait, ça vous pioche le bide. Et je rêve de le jouer, cet idiot, de l'incarner un jour.
Avec Cyrano de Bergerac.
Je l'ai vraiment en tête. Bah, pourquoi pas, avec Cyrano. Avec Cyrano, mais les idiots, moi, m'ont toujours touché. C'est-à-dire que j'étais bouleversé enfant. Il y a quelqu'un dont tout le monde se moquait, qui avait un peu d'embonpoint et une tête vraiment un peu de benêt, et puis tout le monde lui est tombé dessus, et puis moi j'étais dans le groupe un peu, et le soir, j'assistais à ça, quoi, un peu, et puis le soir, j'en parle à ma mère, et qui me dit, bah, va t'excuser, parce que je pleurais comme un enfant, j'étais un enfant, puis je pleurais, j'en étais malade d'avoir pu blesser ce jeune. Et puis le lendemain, je vais dans la cour de récréation, et je lui dis, Samuel, j'aurais te demander pardon pour hier. Et il m'a dit, oh non, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il évacue à ce point-là. Il fait, et ça me bouleverse, quoi. C'est-à-dire de me dire, sa sensibilité, elle est, on passe à côté, alors que, bon bref, et puis c'est Bakri dans le goût des autres.
Justement, j'allais vous en parler, mais juste avant, ça m'a fait penser ce que vous disiez sur Vincent Macaigne, qu'en effet, c'était un des premiers invités que j'ai eu dans Remède à la mélancolie, peut-être en 2013, et la première chose qu'il a faite en entrant en studio, c'était de réciter par cœur des passages de Dostoïevski. Parce que vraiment, ça l'obsède, et il vous a transmis cette obsession, très beau. Et dans le goût des autres, on a reçu il n'y a pas longtemps Amélie Nothomb, qui l'avait choisi pour dire que justement, ça lui avait appris à ne jamais se moquer du goût de certains.
Mais bien sûr, la moquerie et la peine que ça fait, moi ça me fait pleurer en fait immédiatement, parce que ça...
L'humiliation.
Ouais, l'humiliation, la méchanceté en fait, la méchanceté, l'effet de groupe, et souvent ce sont des personnages aussi au cinéma en effet, qui ont une sensibilité du génie à leur endroit et qu'on prend pour des chelous, tous les gens qui ont un pas de côté, quoi, qui sont un peu fêlés, un peu... Le personnage de Bakri dans Le Goût des Autres, c'est ça, c'est quelqu'un dont on se moque, et il a des scènes mais grandioses.
Mais il est bouleversant, quand, en fait, il a une sensibilité extrême.
Vous croyez que j'ai pas le droit d'acheter de l'art, moi, d'acheter ce tableau? Et en effet, il est désarmant. C'est vraiment, ça me passionne, quoi. J'ai envie de creuser ça, ces figures-là, et d'en faire quelque chose. Un clown magnifique, tragique... Parce qu'il y a énormément de comédie aussi.
Mais justement, en parlant de clown magnifique et tragique.
Buongiorno, principessa! Stanotte, t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema! E c'avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora...
Corri, 1997, La vie est belle de Roberto Benigni, qui incarne dedans Guido, un juif interné avec son jeune fils Josué dans un camp de concentration. Ils parviennent à accéder à la cabine comportant le haut-parleur du camp et Guido en profite pour crier son amour à sa femme qui est aussi dans le camp avec ses pères. Et il fait comme s'il s'agissait d'un jeu pour son fils qui demande combien de points ils ont gagné aujourd'hui. Puis il s'éloigne pour échapper aux gardes allemands. Que vous a apporté ce film absolument déchirant, Benjamin Laverne?
Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma liste, parce que en fait j'y pense pas tous les jours à ce film, contrairement à l'idiot qui m'accompagne, au goût des autres. Et il a réapparu comme ça. Je m'en rappelle, je l'ai vu au CGR Castille à Poitiers, parce que j'ai grandi là-bas, et j'y suis allé tout seul, je crois. Et j'étais sorti bouleversé. Ouais, c'est hallucinant comment on peut faire naître l'émotion, la catharsis au cinéma par quelqu'un qui vous dit, mais c'est un jeu. C'est ça aussi, peut-être pour ça, c'est parce que ça parle de mon métier, je pense. C'est qu'il faut jouer. C'est jouer jusqu'au bout aussi, il y a quelque chose de. Jusqu'à la mort, un peu. C'est comme ces grands artistes qui jouent jusqu'à la mort pour comme un défi à la vie et à sa cruauté, à son ironie et de garder toujours le sourire. C'est le sourire de celui qui meurt et qui fait, bah ouais, c'est comme ça. Et cette insolence-là, ce défi, En fait, c'est une réponse à c'est un peu ce dont on parlait au début de l'émission, à cette fatalité, à cette incompréhension. Parce que ce qui rend fou les gens, c'est quand ils ne comprennent pas. Et quand les gens s'engueulent, c'est qu'ils ne se comprennent pas en général.
Ouais.
Et donc, ouais, La vie est belle, c'est sublime, parce qu'il apporte de la poésie dans l'horreur.
J'aimerais vous citer une anecdote dénichée par Arnaud Jamin. On pourrait croire que La vie est belle est un hommage au film de Frank Capra, du même nom, mais en fait, ça vient d'une phrase de Trotsky. Quand il était au Mexique, il savait qu'il allait se faire tuer par les assassins de Staline. Il a vu sa femme dans le jardin et il a écrit « La vie est belle ». Je trouve ça joli. Voilà.
Ah bah, je savais pas.
Autre hommage dans le film, Roberto Benigni porte sur son uniforme de prisonnier le même numéro que Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Et ça tombe bien puisque vous l'avez choisi aussi dans votre panthéon.
Bien sûr. Oh bah, je pense que Benigni aime Chaplin aussi, certainement. Mais des clowns, ouais, les clowns, mais des clowns avec toujours de la poésie, une poésie inouïe l'enfance aussi beaucoup. C'est des enfants, c'est comme si on voyait dans leurs yeux les enfants qui restent toujours enfants et qui a priori ont la sensation qu'ils peuvent pas faire de mal à une mouche.
La tendresse.
Ouais, une espèce de tendresse débordante. Après, je sais pas, je connaissais pas Chaplin dans la vie.
Oui,
mais,
bah,
mais
bon,
quand
y a
on
des
voit
histoires,
l'artiste.
Mais...
Non, mais je veux dire, je veux pas être naïf sur. Même moi, moi le premier. Mais Chaplin, en fait, c'est aussi des artistes qu'on découvre enfants. C'est ceux qu'on vous montre. C'est ceux que souvent les grands-parents montrent aux petits-enfants. Et donc, en fait, on se construit avec ce génie-là. Là, il y a les 40 ans de la mort de Funès. Et c'est pareil. À quel point, en fait, là, j'ai vu un documentaire sur France 3, là, avec la voix d'Isabelle Nanty. C'est bouleversant de voir d'où ils viennent, comment ils se construisent et à quel point le rire est grave dans le sens nécessaire, absolu et vital. Et puis toute la poésie qui s'en dégage, c'est irrésistible et puis c'est universel. Ça qui est incroyable, c'est que Chaplin, quel que soit l'endroit d'où vous venez dans le monde, on rit, quoi, et on pleure.
A safety net, but when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black to mourn the sudden loss of innocence, and that's all right because it hides the dirt and hides the wine. They said no regrets, 'cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms a warm horizon. Don't look back, that's right.
Le morceau Sunset de Caroline Polacek sur France Inter, toujours en compagnie de Benjamin Laverne.
l'embellit.
What are those for?
Huh? Oh, it's just this stupid thing. I have to take a pill every 6 hours or I feel funny. No big deal.
What's it called?
Advanced delusionary schizophrenia with involuntary narcissistic rage.
2000, Fou d'Irène des frères Farrelly avec Jim Carrey et Renée Zellweger, c'est le film que vous recommandez pour être armé dans l'existence, Benjamin Laverne, ouais. Que j'ai revu grâce à vous, et dans l'extrait entendu, Charlie, donc Jim Carrey, explique à Irène qu'il doit prendre des pilules toutes les 6 heures pour éviter des crises de schizophrénie avec psychose paranoïaque et délire narcissique. Je vous laisse raconter aux auditeurs de quoi il s'agit.
Ah, Hank, c'est ça. Non, il a un double. Oui, ah, c'est pareil.
Oui, il a un double
récemment.
Maléfique parce qu'il a, évidemment, il a oublié son traitement.
Bon, déjà Jim Carrey.
Oui, Jim Carrey.
Déjà les frères Farrelly.
Ouais.
Donc la mayonnaise, elle commence à prendre vénère.
Ah oui, l'amour extra large pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Ah
oui, c'est pas mon préf, mais il est quand même très
il
drôle. Jack Black et oui. Gwyneth.
Ouais, Gwyneth Paltrow. Paltrow.
Oui, il est sujet aux moqueries aussi, c'est ça qui le, c'est drôle. Hein.
Parce que c'est un policier.
C'est un policier qui est trop gentil, ouais. Et qui travaille pour sa ville et qui se fait humilier régulièrement par ses voisins. Tout le monde abuse de lui. Il est complètement mis à l'épreuve sans le savoir, ou en tout cas, ça fait son chemin, puisque un jour son double se réveille, son double en effet complètement schizo et qui lui se laisse pas du tout faire, qui est une espèce de qui parle comme ça. Il y a un problème. Tu vas photo fils de pute. Pardon, faudra censurer, mais. C'est extraordinaire, en fait, d'assister à ça, de voir le génie de Jim Carrey tout d'un coup pratiquer ces deux rôles, ces deux facettes de sa personnalité. Et puis le génie des dialogues aussi, l'espèce de ça fait mouche. Donc c'est une alchimie des frères Farrelly, de ce pitch avec Renée Zellweger qui est complètement dépassée par ce type vraiment, mais qui est psychopathe, hein, qui est carrément un psychopathe et qui est complètement cynique et qui... C'est réjouissant à souhait, quoi.
Je me souvenais de quand il parce que je l'avais vu il y a très longtemps. Quand il
c'est l'humiliation de trop qui le fait basculer.
Ouais.
Avec cette batterie-là. Et on le voit se transformer.
Et tiquer du visage.
Tiquer du visage.
Et quand il rencontre ce serveur albinos aux cheveux blancs et qui dit « Oh, un coton-tige géant. »
Ouais, un coton-tige géant. La parusse.
Je me souvenais uniquement de cette blague.
Ouais. C'est pas très sympathique, hein, mais c'est, voilà, c'est ça. C'est la cruauté de l'humour aussi qui fait éclater de rire.
Jim Carrey, qui a été évidemment un roi de l'humour dans tant de comédies qu'on connaît, Dumb and Dumber, Ace Ventura, The Mask, mais qui a aussi été bouleversant, par exemple dans The Truman Show ou Man on the Moon de Milos Forman.
Ah bah ouais. Bon, c'est pour moi, c'est ça aussi les immenses acteurs. C'est pour ça que je parlais de Chaplin, ceux qui savent vous faire rire ou pleurer, ou Bourville. C'est à un moment donné, cette fêlure, eux reçoivent les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Je sais plus quelle est cette phrase qui l'a dite, mais elle me parle beaucoup. C'est qu'ils sont des passeurs. Je sais pas d'où ils viennent, ces gens, mais c'est qu'on voit leur humanité. C'est-à-dire que l'humour, c'est pas une manière de fuir, c'est une manière, au contraire, de se rencontrer et de... Enfin, c'est une manière de régler beaucoup de choses, de fuir pour plein de gens, certainement. On dit qu'on fuit par l'humour, qu'on fait du second degré. Mais un acteur, un grand acteur, c'est ça, c'est quelqu'un qui se donne et qui n'a pas cette pudeur, qui laisse tomber des pudeurs. Un acteur technique qui fait toujours une petite voix ou qui décale, il se montre pas et moi j'ai pas accès à lui et ça m'intéresse pas. Ou normalement je dis oui t'es un grand faiseur, t'as énormément de savoir-faire, tu peux être un génie technique, mais si à un moment donné tu te fous pas à poil au sens figuré, hein, je l'entends. Et Jim Carrey, il a ça, il sait à un moment donné. Puis c'est quelqu'un qui est pareil. C'est vraiment, je pense que c'est un chantier ce type. Hein.
Benjamin Laverne, ouais. Est-ce que vous avez vu ce documentaire justement sur Jim Carrey qui s'appelle Jim et Andy, qui est très gênant.
Très gênant.
Parce qu'en fait, il a joué donc dans Man on the Moon pour les auditeurs de Milos Forman, où il joue Andy Kaufman, grand humoriste et provocateur. Et en fait, on se rend compte que sur le tournage, il s'est pris pour Andy Kaufman. Et on ne sait pas s'il fait semblant ou s'il est vraiment devenu fou.
Ah oui, Milos Forman, ce coup de fil à Milos Forman est incroyable. Ou Milos Forman, je voudrais parler à Jim Carrey. Oui, il n'est pas là, je ne sais plus. C'est un peu, c'est son double de, c'est Hank Williams, quoi. Pas Hank Williams, Hank Williams n'a rien à voir. C'est un chanteur de country américain, ça n'a rien à voir. Hank.
Peut-être qu'il est aussi Hank Williams.
Peut-être qu'Hank Williams est en effet à deux personnalités. Ouais, c'est ça qui est troublant. C'est qu'il y a une espèce de, c'est sur le fil. Il y a quelque chose d'un peu kamikaze, mais c'est ça qui me plaît aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se mettre en danger. Par contre, ça, j'y crois pas.
Ah bon ?
Si, il faut se mettre en danger, mais sans, sans se mettre en danger, je veux dire.
Oh, wow.
Ouais, c'est compliqué. Non, mais je veux dire, il faut se donner... Il faut qu'il y ait un vertige. Oui. Je pense, quand on joue, il faut se brûler un petit peu les ailes, mais pas trop. Il faut respecter ses partenaires, il ne faut pas se faire du mal physiquement. Mais quand je vous disais, il laissait quelques plumes.
Oui.
C'est-à-dire, il laissait un peu d'âme.
Mais pas tout son pelage.
Pas tout son pelage.
Ce que vous aimeriez accomplir, je vous l'ai demandé, c'est, je vous cite, « m'occuper aussi bien des autres que de moi, donner du temps aux autres. Que faites-vous le moins bien ?»
Quelle banalité. Mais
non, que faites-vous le moins bien ? Vous occupez de vous-même ou des autres ?
Bah, paradoxalement, c'est parce que je m'occupe un peu mal de moi que je m'occupe un peu mal des autres, parfois. C'est-à-dire que être sur sa pomme, ça ne veut pas forcément dire s'occuper bien de soi. Mais ça peut être un peu accro au travail. J'ai appris ce mot, workaholic.
Worker, oui.
On m'a traité de workaholic, donc ça me fait cogiter.
Ce n'est pas le cas de tous les membres de la troupe du Français ?
Certains plus que d'autres, en effet. Moi, j'ai l'impression d'avoir une chance inouïe. Je me dis, mais c'est quelle chance. Je fais ma passion, puis on propose des rôles fabuleux au cinéma, et je suis à la Comédie Française. Je me dis, mais il faut que j'embrasse tout ça. Je peux pas dire non. Et évidemment, parfois, on oublie un peu de s'occuper des autres, de son entourage, et mais qui est vraiment dans le canapé. Mais c'est toujours un but de se tourner un peu plus vers l'autre, parce que c'est ça qui rend heureux, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, si on est tout seul avec soi. Et... Donc, c'est ce que je me souhaite, mais c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs, tout simplement.
Benjamin Laverne, je vous ai demandé aussi ce que vous aviez raté, et vous avez répondu « mes autres vies ».
J'étais un peu court sur cette réponse, mais bon, on n'a pas
si court que ça.
Pas si court. Ok.
Si je peux me permettre.
Évidemment que la culture est indispensable. Après, on ne peut pas non plus nier les réalités économiques, donc c'est sûr, dans le temps, il y aura des réductions de budget. Je veux dire, évidemment. Sur la forme, nous nous opposons à la réforme. Mais sur le fond... On est d'accord. La dette, la crise, ça vous dit quelque chose ?
Extrait du spectacle « La loi des prodiges » de François de Brouwer à la Scala de Paris en 2020. C'est le travail de ce comédien que vous recommandez de beau aux auditeurs, Benjamin Laverne. Vous recommandez aussi d'ailleurs son spectacle « Rencontre avec une illuminée » qu'il a joué en 2022.
Ah. Oui, qui va se reprendre, je crois, au Petit Saint-Martin.
Parlez-nous de ce comédien, vous le connaissez ?
C'est un ami que j'admire énormément. On se comprend, on se parle beaucoup, on se reconnaît un petit peu. Et donc, je pense que c'est ça aussi, s'apprécier, c'est un peu la façon de se reconnaître, de s'être connu un peu dans une autre vie. On se comprend très très vite. Et en fait, sur scène, il est fantastique parce qu'il allie tout ça. C'est un peu un Jim Carrey encore.
Il fait plein de personnages différents,
il
plein
fait,
de voix.
Il fait 25 personnages différents et il a une écriture... hyper intelligente, ciselée, romanesque. Il écrit ses propres spectacles, il improvise chez lui, il se filme, et voilà, ça fourmille dans sa tête, et il sort tous ses personnages, et il en fait une histoire fantastique, et il vous emporte, il a une manière de jouer tellement fine, sensible, poétique, et précieuse, précise et précieuse, qui vous, en fait, met les larmes aux yeux, parce que on sent à quel point cet art pour lui est important, délicat, et qu'il vous transmet sa sensibilité, son savoir-faire, et puis qu'il vous raconte une histoire. Seul, en scène, avec 20 personnages. Et c'est inspirant, en fait. Je l'aime très fort, ce François, parce qu'il m'inspire et qu'il me donne terriblement envie d'être à sa place aussi. Non pas pour faire pareil, mais pour moi-même, peut-être créer un seul en scène ou vivre ça. Parce que ça a l'air inouï et que c'est la gourmandise du jeu et puis c'est total aussi. C'est-à-dire que quand on est interprète, parfois on est juste le passeur du texte d'un autre, on a un metteur en scène qui vous dit parfois comment jouer, on a l'impression d'être un peu un pantin. Et là, le fait qu'il écrive, qu'il mette en scène, qu'il interprète, alors il y a des regards extérieurs et des co-metteurs en scène, dont Louis Arène, Joséphine Serre, mais ces spectacles me remplissent de joie et me donnent envie de faire ce métier encore plus. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est un grand artiste et c'est quelqu'un à suivre de très très près, François de Brouwer.
La loi des prodiges, on peut le voir en intégralité sur Internet.
Exactement, YouTube, on peut le
voir.
Oui,
ouais. Bien sûr. Enfin, je sais pas si on peut le
voir. Toujours
mieux
de le voir
en
vrai, mais si vous n'avez pas vu La loi des prodiges, vous pouvez le voir sur YouTube. Et
je citerai Dailymotion pour faire aucun favoritisme.
Dailymotion,
on arrive à l'engagement de fin d'émission. C'était le jingle de l'engagement de fin d'émission. On a une minute, Benjamin Laverne.
Allez voir La loi des prodiges, hein, parce que c'est ça qui va être repris pour François. D'accord, merci Benjamin.
Votre engagement, pas du tout. Je voudrais qu'on ait le temps pour détailler
bien
votre
sûr,
engagement, mais il nous reste que 50 secondes.
Moi aussi j'ai un double. Vous voulez,
Et ben moi,
vous voulez qu'il arrive ?
Moi aussi. Et c'est un lama. Alors, faire du bénévolat, par exemple, en m'inscrivant au MIAA, Mouvement Intermittent d'Aide aux Autres, association fondée en 2008 et qui permet de faire du bénévolat au gré des disponibilités de chacun, sans engagement régulier ou à long terme.
Oui.
On inscrit son mail quelques jours à l'avance.
Ils servent 120 repas par jour. Et en fait, ça a été créé pour notamment pour les intermittents, ceux qui ont un emploi du temps très décousu. Et c'est sans engagement. Et ça, je crois tellement de gens qui disent « Ah là là, j'aimerais bien quand même faire du bénévolat, je sais pas, aller servir des repas, faire des maraudes, enfin, me sentir utile et regarder les autres. » Et ben, j'ai l'impression que cette association, elle est merveilleuse pour ça. Ça a l'air très très simple. Ça l'est, je me suis inscrit. Et en fait, vous pouvez aller préparer des repas un matin, où vous êtes libre, le décider au dernier moment. Ils vous envoient leurs besoins, ou aller faire des maraudes et distribuer ces repas. Donc ça s'appelle MIAA, M-I-A-A.
Mouvement intermittent d'aide aux autres, on mettra les références sur le site internet. Merci beaucoup Benjamin Laverne d'être venu dans l'émission.
Merci à vous. Namasté. Le lama.
Vous êtes...
J'aimerais bien le rencontrer, ce lama.
Oh là. Ah, c'est lui qui parle. Attention, vite, il faut que je termine avant qu'il prenne possession de tout.
Il a l'air très rigolo.
Oui, il est plutôt sympa. Vous êtes sur scène avec la troupe de la Comédie Française dans La Dame de la Mer d'Ibsen, dans une mise en scène de Géraldine Martineau, qui joue également dedans jusqu'au 12 mars au Théâtre du Vieux Colombier à Paris.
Du mardi au dimanche.
Au cinéma, on pourra vous voir cette année dans De Grandes Espérances de Sylvain Desclous, qui sort le 22 mars.
Avec Rebecca Marder, super thriller politique.
Que je vais recevoir dans quelques semaines d'ailleurs. Puis dans L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier et Jeanne Dubarry de Maïwenn. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez le dynamisme d'une poutargue baladine. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.